France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, comment mieux vivre avec son hypocondrie, ce trouble anxieux lié à la peur d'être malade. Selon la psychanalyste Michel Declercq, c'est la plus vieille maladie du monde, la plus ancienne et celle dont la guérison paraît la plus incertaine. Une guérison incertaine car l'hypocondriaque le sait bien, ça ne s'arrête jamais. Et comme l'écrit l'hypocondriaque en chef Agathe Le Caron dans son nouveau livre, un bon résultat entraîne de nouvelles questions, un nouveau doute à lever et donc de nouveaux examens. Alors comment vivre avec ce jour sans fin, cette anxiété permanente? Selon un sondage IFOP de 2014, il y aurait au moins 8 millions d'hypocondriaques dans notre pays. À partir de quel moment passe-t-on de la légitime inquiétude sur sa santé à l'hypocondrie? Comment soigner cette anxiété? Élément de réponse avec nos invités. Et vous, quel hypocondriaque êtes-vous? Comment vivez-vous cette angoisse permanente? Quelles répercussions sur vos proches? N'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Agathe Le Caron.
Bonjour Ali Rebbi.
Vous animez bel et bien ensemble du lundi au vendredi à 9h55 sur France 2 et bel et bien le samedi à 9h30
avec
en compagnie.
Personne formidable.
En compagnie de votre serviteur. Vous produisez les excellents podcasts Ex Les Rescapés et Ex Vitro, le tout dernier. Et vous publiez chez Robert Laffont Patiente Zéro qui raconte votre parcours d'hypocondriaque. Un style léger, souvent drôle, mais ce n'est pas cela qui m'a marqué dans votre livre. Ce sont les traumatismes d'enfance qui expliquent en partie votre hypocondrie, qui ne fait pas rire du tout quand on lit votre livre, car il s'agit d'une véritable souffrance qui vous a pas mal gâché la vie.
Oui, elle m'accompagne depuis que je suis toute petite, en fait, cette souffrance, et je crois que c'est un véritable empêchement. Donc certes, on n'a rien trouvé de mieux que l'humour pour se sortir des situations difficiles, mais je ne veux pas réduire le traumatisme que c'est, parce que c'est quotidien.
Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin généraliste, vous dirigez un cabinet de médecine intégrative à Paris, le centre Vitruve. Vous êtes par ailleurs le médecin d'Agathe Le Caron. Vous êtes évidemment tenu au secret médical, mais vous évoquerez ce lien particulier qui lie un médecin à son patient hypocondriaque, une obsession qui peut mettre à mal la relation thérapeutique.
Absolument. L'hypocondrie, c'est une double question. C'est une question du rapport du patient à son corps et du rapport du patient au médecin. Et malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui vont être éprouvés dans leurs limites, qui vont envoyer balader. Il faut vraiment mettre les pieds dans le plat. C'est insupportable, j'arrive pas à gérer, je peux pas les soigner. C'est dans la tête, vous ne souffrez pas. Et en fait, il faut accompagner, être là.
Bonjour Antoine Spatt.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue clinicien. Vous avez publié chez Larousse avec Caroline Michel, Tu crois que c'est grave. C'est quoi l'hypocondrie, cette peur maladive des maladies? On parle désormais de l'anxiété liée à la maladie.
Oui, ça a changé de nom, c'est-à-dire le terme hypocondrie n'est plus dans la nouvelle nomenclature des terminologies psychiatriques. On parle maintenant effectivement d'anxiété. C'est plus commode finalement pour nommer quelque chose qui est effectivement une problématique ou une pathologie, on va dire, qui est transnosographique. Parce que
ça veut dire quoi?
Transnosographique. Ah pardon, oui. Qu'on retrouve un petit peu dans beaucoup de problématiques psychiques. Tout le monde a à un moment donné dans sa vie eu une crainte, une peur ou une angoisse de son corps, d'une défaillance de son corps, d'une maladie qui pourrait s'installer. Et le problème, c'est qu'on retrouve ça à peu près dans toutes les difficultés psychologiques. Ça fait partie de la vie, finalement, parce qu'en toile de fond, il y a l'idée de la mort, qu'on redoute tous plus ou moins. Et alors, pour parler d'hypocondrie, il faut que ce trouble soit installé depuis un certain temps. Il faut que ce soit au moins 6 mois, disait-on, ce qui est souvent le cas. Et il faut que ce soit récurrent. Il faut que ça s'installe sur différentes manifestations du corps, différentes inquiétudes du corps. C'est-à-dire, un hypocondriaque est rarement rassuré. Contrairement à un anxieux, qu'on peut rassurer chez son médecin, par exemple, la relation médecin-patient, avec un anxieux, il va accepter le réconfort, il va accepter la parole du médecin, la vérité du médecin, ce qui n'est pas toujours le cas des hypochondriaques, parce qu'effectivement, ils vont se rassurer quelques instants, et aussitôt, ils vont repartir dans un nomadisme thérapeutique, où ils vont aller chercher une autre vérité, un médecin qui est meilleur, un diagnostic ou un examen médical qui est plus performant, le nouvel IRM qui est sorti à l'hôpital je ne sais pas où. Et donc il y a une quête comme ça infinie de la perfection, mais qui ne les rassure en réalité jamais.
Agathe Le Caron, vous correspondez parfaitement à cette définition.
Totalement. Oui, moi d'ailleurs je conseille dans le livre de vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est un grand enjeu, trouver le médecin de sa vie. Et que sa parole soit d'or. Mais donc ça veut dire qu'il faut chercher, moi j'ai trouvé, il est en face de moi parce que il m'a comprise et qu'il fait avec mon hypochondrie. C'est important de faire avec.
À quelle famille d'hypochondriaques appartenez-vous ? À la famille de celles et ceux qui ont tellement peur d'être malades qu'ils consultent à outrance ou au contraire fuient tout type d'examen ? Ou bien à la famille de celles et ceux qui sont intimement persuadés d'être déjà malades et pour qui tous les médecins se trompent ?
Le 1 et le 3, c'est-à-dire que effectivement, je consulte énormément, je surconsulte, je fais... Alors en plus, c'est terrible, parce qu'après 50 ans, je faisais déjà les coloscopies, les mammographies à 40 ans, alors qu'on ne me le demandait pas, mais alors après 50, comme en plus, il faut le faire, c'est dans les livres, donc ça, je fais beaucoup d'examens. Et puis oui, j'ai toujours une maladie en cours. Voilà, donc je m'imagine des maladies. Après ça, j'arrive de mieux en mieux à le gérer quand même.
Alors on l'a dit, le terme d'hypochondrie ne figure plus dans le DSM-5, publié en 2013, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la bible de la psychiatrie américaine largement utilisée dans le monde. Le DSM-5 parle donc désormais de troubles d'anxiété liés à la maladie ou encore de troubles à symptomatologie somatique ou de crainte excessive d'avoir une maladie. Et pour établir le diagnostic, on examine les pensées, les émotions et les comportements excessifs. Quels sont ces signes de l'hypochondrie, ces comportements, ces émotions, ces pensées excessives qui vous taraude par rapport à la maladie, Agathe Le Caron?
Je vous donne le dernier exemple en date. Le docteur Chaboch m'a prescrit une prise de sang il y a 15 jours. J'y pense tout le temps. Tout le temps. Et je me dis, je vais la faire demain. Parce que là, ça sera, enfin, là, je vais effectivement la faire demain. Quand je vais avoir les résultats, je vais me mettre dans un état d'angoisse profond. Donc, oui, voilà, c'est tous les jours de ma vie.
Où se situe la frontière entre la peur normale de contracter une maladie et l'hypochondrie ? Où se situe la frontière entre le normal et le pathologique, docteur Chaboch ?
Eh bien, Agathe Le Caron l'a tout à fait exprimé par son authenticité. C'est à partir du moment déjà où ça devient récurrent et envahissant. C'est-à-dire lorsque ça a un impact sur la vie de tous les jours, sur le déroulé d'une journée, si je peux, si ça impacte mon travail, si ça impacte mes proches, parce que ça envahit le dialogue, le discours, les pensées, si ça atteint. Et puis, il y a aussi un facteur d'exposition, c'est-à-dire que si on ne canalise pas les choses, ce sont des patients qui peuvent, par exemple, évidemment, et ça va rajouter une inquiétude à ceux qui sont concernés, mais ça peut exposer aussi à trop d'examens. Et là, il y a des effets indésirables. Par exemple, si on fait tout le temps des radios ou des mécanismes d'imagerie avec des rayons X, c'est vrai qu'on va absorber aussi une quantité de rayons X qui est trop importante. Et le plus difficile, c'est cette juste mesure, parce que on ne peut pas accepter tout du patient qui souffre de cette hypochondrie, parce qu'on sait bien que derrière, en fait, Agathe l'a très bien dit, il y a des traumatismes, il y a des choses qui sont passées bien avant. Donc on ne peut pas accepter tout, mais on ne peut pas non plus ne rien faire pour la santé. Il faut garder ce cap de maintenir une santé. La prescription d'examens, de prévention, de dépistage, fait partie de la santé de tout le monde. Le pire serait de ne plus rien faire non plus.
Et nous accueillons Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour Ali.
Vous allez bien ? C'est une question de circonstance. Quelle hypochondriaque ?
La version moyenne.
Quelle hypochondriaque êtes-vous, Pascal ?
C'est horrible parce que je pense que je l'étais un peu, mais sans excès, je dirais, raisonnablement inquiète. Là, ça a envahi ma vie depuis, je dirais, on est en février, depuis novembre, 2-3 mois. Donc, justement, j'entendais que vous parliez du médecin, du choix du médecin. J'ai changé de médecin la semaine dernière parce que... il s'est montré très, très brutal. Il m'a traité passive-agressive. Et donc, il a été grossier aussi. Il m'a sorti une expression que je ne voudrais même pas dire à l'antenne.
Ne la dites pas à l'antenne. Pascal, comment se traduit votre hypocondrie au quotidien? Et vous le dites, hein, elle s'est accrue ces derniers mois. Racontez-nous un petit peu.
Alors, parce qu'en fait, ça se déplace, l'hypocondrie. Hein. Donc là, les dernières semaines, ça s'est focalisé sur la langue. Mmh. Donc j'avais la langue en feu, vraiment théorique. Donc je regardais ma langue 30 fois par jour. Donc j'ai vu un médecin, un dentiste, et puis j'ai été envoyée chez un stomatologue. Donc j'ai fait des analyses. Bon, j'ai une carence en fer, j'ai une carence en...
Profitez, il y a le docteur Chaboche.
Une carence en vitamine B9. Donc ça vient, je viens juste de recevoir le résultat. J'ai la thyroïde qui déconne un peu, donc tout ça pourrait être... Mais bon, j'ai compris que mon hypocondrie, ma brûlure de langue qui s'estompe depuis que je sais que peut-être ce n'est qu'une carence en ceci et cela, qui peut être supplémentée.
Quel est l'élément déclencheur, à votre sens, de cette hypocondrie qui s'est développée ces 2-3 derniers mois?
Bah, ces 2-3 derniers mois, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. On cherche avec ma psychologue. Disons qu'il y a 11 ans, mon mari est mort jeune. Et donc ça a été très très dur, mais bon, 11 ans ont passé. Et là, enfin, d'après ma psychologue, j'ai donc accompagné l'agonie, etc. J'ai un rapport, je suis terrorisée, je suis terrifiée à l'idée d'aller à l'hôpital. Là, ça vient de là, c'est très clair. Pourquoi ça ressurgit Parce que bon, il est finalement mort après 4 ans de traitement. Il a tout fait bien dans les règles de l'art. Franchement, il s'est bien soigné et il en est mort. Mmh. Et l'accompagnement à l'hôpital, bon, on l'a mis sous sédation profonde, sans m'en avertir. Donc il est mort dans mes bras, certes, mais je n'ai pas pu... Enfin, vous voyez, comme on voit dans les films, échanger les derniers mots, entendre ses dernières consignes. Donc, je suis terrifiée par l'hôpital. Et l'âge venant, ça devient de plus, comme m'a dit un médecin, on ne meurt pas en bonne santé. Donc, voilà, c'est le genre de choses que je me prends dans la figure.
Antoine Spath, sur le témoignage de Pascal.
De Pascal. Oui, alors moi j'ai tendance, je ne vais pas faire de la psychothérapie en ligne, enfin, c'est un peu compliqué, mais à voir la métaphorisation du symptôme, c'est-à-dire là, la langue qui brûle. Donc évidemment, on peut y voir quelque chose qui se passe autour de cet espace buccal. Et la langue, bah, c'est aussi la parole, c'est le feu. Et donc je pense que s'il y a une approche à développer dans ce genre de situation, moi en tant que psychologue et non médecin, donc c'est autour de cette question-là. Et donc j'ai toujours tendance à essayer de faire parler le symptôme, comme on dit, ou de trouver une métaphorisation du symptôme qui est physique au départ, mais le corps, on le sait bien, vient exprimer la traduction psychologique de quelque chose. Voilà.
Docteur Chaboche.
Oui, le pire, ce serait de dire à cette auditrice, vous n'avez rien, parce que les examens n'ont rien montré. Et encore que, on voit bien que finalement, il y a une carence en vitamine B9, il y a des choses quand même à corriger de la santé. Et puis, c'est ce que vient de dire mon confrère, c'est qu'il faut s'intéresser de manière centrée sur la personne, dans son histoire à elle. On ne peut pas faire des interprétations sauvages. Voilà, alors la langue, c'est ça, l'épaule, c'est ça. Ça, c'est très dangereux parce qu'on est trop dans l'interprétation. Mais de faire parler le symptôme, de discuter avec la personne.
Agathe Caron, vous vous reconnaissez dans le témoignage de Pascal?
Ce qui me frappe, c'est qu'il y a toujours quand même une source et une cause à trouver. Et il y a toujours quand même quelque chose qui se cache de l'ordre du traumatisme derrière. Et le corps parle. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'en fait... Alors là, on parle un peu d'autre chose parce qu'on parle de somatisation. Mais quand j'ai somatisé, ce qui m'est arrivé beaucoup, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu mon inconscient qui me tapait sur l'épaule en me disant « Hé, arrête-toi un petit peu sur tes émotions, répare. » Et c'est pas mal, parce que l'hypocondrie a aussi des vertus, comme la peur a des vertus, et moi ça m'a poussé à me réparer, et puis aussi à m'occuper de moi, c'est quand même pas mal, j'ai une meilleure hygiène de vie grâce à ça aussi.
On reviendra sur ces traumatismes qui peuvent causer une hypocondrie et on se demandera évidemment comment soigner cette hypocondrie. On se retrouve juste après avoir écouté Bad Bunny, Debbie Tirar Masfotos, Bad Bunny qui a été magistral lors du show du Super Bowl cette nuit, quand la joie devient politique face aux ténèbres que traversent les États-Unis. 10h20 sur Inter. Oh, oh, oh.
nosotros son ce bonito que ve un San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mi crush?
Y tirarte la foto que no te tiré.
Pecho brote, bien linda, déjame traerte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata.
Y sería cabrón que tú me toques el guiro.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi lonquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, pues pasan dulce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. Beber. Beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que está caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más f***. Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
Bad Bunny interprété Debbie Tirar Mas Photos, et je vous recommande chaudement d'écouter la spéciale Bad Bunny de Camille Diao et Mehdi Maizi, disponible sur l'appli Radio France.
France Inter.
Bon, écoutez, il n'a pas l'air trop mal, ce cœur.
Pas trop mal, c'est-à-dire qu'il est quand même un peu mal. Oh, bon,
écoutez, il s'affole, ce monsieur, ne vous affolez pas.
Rends bien vous fasse.
Parce que si vous continuez comme ça, ce qui peut vous arriver, en revanche, c'est de faire un ulcère. Vous voyez ?
Ali Rebi.
Vous avez peut-être reconnu un extrait d'On connaît la chanson d'Alain René avec Bakri. Et ce matin, dans Grand Main vous fasse, comment mieux vivre avec son hypochondrie, avec Agathe Le Caron qui publie Patiente Zéro. Elle y raconte sa vie d'hypochondriaque avec le docteur Adrien Chaboche et avec le psychologue clinicien Antoine Spatt. Et nous accueillons Henri-Claude. Bonjour Henri-Claude.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Vous appelez d'où ?
Je vous appelle de Lyon.
Alors, vous nous avez dit au standard que vous aviez l'hypochondrie heureuse. Ça a l'air d'un oxymore.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est un oxymore. J'ai même failli utiliser l'adjectif heureuse.
Oui.
L'hypochondrie heureuse. On va dire en tous les cas sereine. Je vous explique rapidement.
Allez-y.
C'est-à-dire que si j'ai une petite, je tousse, j'ai mal au dos, enfin, j'ai mal à l'estomac, je vais voir mon médecin et je suis tout à fait ravi si le médecin me dit oui, on va passer une échographie, je vais vous donner des antibiotiques, vous allez avoir une prise de sang, etc. Et j'ajouterai que si je me rends dans un lieu de soins
que ce soit dans un laboratoire ou très souvent dans un hôpital, le simple fait de rentrer dans ces lieux, je trouve que c'est très tranquillisant, que les gens sont professionnels. Je parlerai même de l'odeur qui me rassure. Je vous garantis que le simple fait d'y rentrer, j'ai déjà l'impression d'aller mieux.
Moi, ça provoque plutôt l'inverse, vous savez. Henri-Claude, Antoine Spatz. Oui, allez-y.
J'ai un ami qui est médecin, que je le consulte pas, je l'appelle de temps en temps, et lui me dit, ben écoute, tu sais, plus on cherche, plus on trouve.
C'est vrai.
Il termine avec humour en me disant, ce serait quand même bien que tu arrêtes de creuser le trou de la sécurité.
C'est pas faux. Voilà. Antoine Spatz, sur le témoignage d'Henri Claude.
Oui, ben, je pense que pour ce monsieur, il a tendance à trouver une sécurité au sein de la tutelle médicale. Et donc, pour lui, c'est une rassurance totale d'aller voir un médecin. C'est-à-dire qu'il accepte la posture médicale qui le rassure. Ce qui n'est pas le cas de tous les hypochondriaques. Hein. Ou peut-être, je ne sais pas s'il est obligé d'y retourner tous les trois jours ou tous les semaines à l'hôpital pour se rassurer, mais il accepte cette posture-là. Ce qui n'est pas le cas, de tous les hypochondriaques. Donc, c'est bien, il a trouvé son médecin, en quelque sorte. Il a trouvé la médecine comme... notre chère Agathe.
Voilà, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est la notion de prise en charge. Et je me suis beaucoup posé la question là-dessus en écrivant le livre. Il y avait quelque chose de très doux chez moi qui, très certainement, bouchait une vacuité dans la prise en charge, parce que j'avais toujours eu l'impression que c'était moi qui étais en charge de mes parents, de mon mari, de mes enfants, bien sûr, ça c'est normal. Donc oui, ça peut être rassurant d'être pris en charge.
Adrien Chaboch.
C'est des besoins fondamentaux qui sont très très ancrés dans l'histoire profonde de chaque individu, et on voit au travers de nos auditeurs qu'il y a vraiment des pistes, des compréhensions qui nous amènent à nous questionner sur ce qu'ils ont vécu dans le temps présent, dans le temps passé. Quel manque ? Est-ce que c'est un manque affectif ? Un manque d'amour ? Un manque de réassurance ? Un manque de décodage du corps ? Parce que les parents ont aussi une fonction de démystifier le corps. Papa, maman, j'ai mal au ventre. Et ben, les parents vont expliquer ce qu'il y a dans le ventre, les organes vont lever le mystère sur ce qui se passe. Et ça, c'est hyper important pour que l'individu se construise en étant rassuré de ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois, alors, le patient hypochondriaque va aller chercher cette fonction de calme, de tranquillité, de décharge d'énergie. Vous avez évoqué la psychanalyse en introduction. On pense que c'est des mécanismes de tension, de conflit qu'on va décharger. Mais ils se rechargent. Et après, ça recommence, et on va plus loin, et on recommence.
Voilà, moi, c'est très important aussi de dire que quand on cherche, on trouve. Moi, je me suis toujours dit, cette expression, si on trouve, tant mieux. S'il y a quelque chose, autant le trouver. Mais non, moi, je raconte très bien dans le livre qu'à force de faire des examens, j'ai eu un marqueur qui a été 10 fois la moyenne. Donc forcément, 10 fois la moyenne pour une hypochondriaque, c'est intolérable, c'est impossible. Et je suis rentrée dans un tourbillon, dans une machine qui m'a fait passer de l'autre côté, donc du côté des malades. Alors que je l'explique dans le livre, toujours dans le sas, entre les deux. Comme si j'étais aussi un petit peu addict aux résultats positifs. Ça aussi, c'est une notion très importante. C'est qu'on fait un examen, on nous dit il n'y a rien, et c'est une joie qui est exceptionnelle. Donc, on devient aussi un peu accro à ce genre de sensations.
Merci beaucoup, Henri-Claude, de nous avoir rappelé. Alors, Agathe Le Caron, j'ai pris un exemple d'hypochondrie dans votre livre. On est en 1994, vous partez à New York avec votre amoureux de l'époque, et là, vous ressentez un malaise quand vous prenez un ascenseur, et je vous cite, la même sensation que l'ascenseur qui monte et s'arrête en vous soulevant le cœur, multiplié par 100. Vous consultez dans une clinique new-yorkaise, rien à signaler. Les répliques de vos malaises vont jalonner les derniers jours de ce séjour à New York. Des déflagrations qui vous laissent à chaque fois KO. Et après ces malaises new-yorkais, les 2 années suivantes, vous allez consulter 32 médecins.
Oui.
Avec une batterie d'examens à chaque fois et des résultats parfaitement normaux à chaque fois.
Oui, alors ce qui est terrible, c'est que comme les médecins font bien leur boulot quand même pour la plupart, ils sont quand même un peu interpellés par ce symptôme, quoi, parce qu'il faut quand même des vertiges. Bon, c'est pas un symptôme anodin. Aujourd'hui, je pense que peut-être qu'on sait plus que c'est émotionnel, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, à l'époque, j'ai jamais entendu ça. Et c'est vrai que je prends toutes les opportunités possibles pour aller consulter. Ça peut être un ami de mes parents, ça peut être le père d'un copain, ça peut être... Et je n'arrête pas et je fais des examens qui ne sont pas de mon âge, parce que je fais des électrocardiogrammes, Et en fait, c'est sans fin. Et c'est là où, et j'ai pas du tout analysé à l'époque que parfois la dépression, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, donc je parle sous votre contrôle, mais moi en tout cas j'ai eu l'impression avec le recul que c'était une forme de dépression qui s'est exprimée par ça. Mais
Et en lisant votre livre, on touche du doigt l'origine de cette angoisse totale qui s'exprime dans votre hypocondrie, un mal-être qui naît dans l'enfance, et vous écrivez ceci, je vous cite, « Lorsqu'on regarde mon arbre généalogique, plus on remonte, plus les époques imposent la froideur des sentiments qui se transmet au fil des ascendants. C'est de tout ce petit monde que je suis le fruit, le ricochet du traumatisme originel, pleinement engrammé de leur traumatisme. »
Oui, c'est-à-dire que on est, d'ailleurs c'est le cas de tout le monde, on est tous le ricochet du traumatisme originel. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je pense que l'hypocondrie, je parlais des vertus de l'hypocondrie, je pense que c'en est une très forte, c'est justement de se réparer par rapport à ça, de pardonner, de comprendre, parce que je veux pas du tout incriminer mes parents, mais je suis le fruit de deux parents qui eux-mêmes ont été traumatisés, et donc je me traîne tout ça, et l'idée c'est de réparer pour casser les schémas. C'est ce que j'essaye de faire aussi avec ce livre.
Et vous écrivez que votre hypocondrie tient sans doute, je vous cite à nouveau, à une période d'innocence vitale et nécessaire à chaque enfant qui a été enfreinte. J'ai le sentiment que la petite fille que j'étais a essayé de toutes ses forces de se préserver des réalités du monde adulte, de le contourner alors qu'elle n'était pas en âge de s'y confronter, de les absorber. Mais les adultes m'ont flanqué cette réalité au visage.
Ben, je suis la fille, je suis née en 74, donc je suis la fille de parents qui avaient 25-30 ans dans les années 70 et qui donc, eux, étaient très libres, donc très absents. Je pense qu'autour de moi, tous mes congénères ont le même type de traumatisme, en fait, ou de manque. Donc après, à nous de les réparer, et de les conscientiser et de ne pas les transmettre. Mais je pense effectivement que mon hypocondrie, mon anxiété en général, qui s'est mise sur l'hypocondrie qui pourrait se mettre sur les araignées. Elle vient de là, en effet.
Docteur Chaboch.
Et c'est ça qui est important de comprendre quand on veut accueillir un patient qui souffre d'hypocondrie. C'est vraiment un accueil global, complet et sans jugement de la personne. Parce que c'est, comme le dit très bien Agathe Le Caron, c'est des tentatives aussi de résoudre quelque chose en soi. C'est quelque chose de tenir bon, de lutter contre des traumas, de la dépression, de la désorganisation. Coûte que coûte, vaille que vaille, c'est avant tout une survie. Donc on ne peut pas partir en accompagnant un patient en ayant les mêmes prérogatives qu'avec un patient qui ne souffre pas de ça. On ne peut pas attendre d'un patient hypochondriaque de lui dire « Allez, arrêtez avec toutes ces angoisses, ça suffit maintenant. » À la limite, peut-être, c'est peut-être paternaliste et rassurant, mais ça ne marchera pas. On ne va pas demander à quelqu'un d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Par contre, d'accompagner, de canaliser, de garder le cap, de ne pas négliger la santé par ailleurs, parce qu'il faut aussi accompagner ces personnes, dans un équilibre délicat, doux, jamais de jugement. Et de cette manière-là, alors il se passe quelque chose. Et Agathe Le Caron peut peut-être en témoigner. Il y a un peu moins d'examens, il y a un peu moins de recours aux soins, il y a un peu moins de désorganisation autour de ça. Donc il y a un peu plus de sécurité.
Mais parce que la parole du médecin devient enfin une parole d'or.
Thérapeutique.
Thérapeutique. C'est-à-dire que comme je sais que je suis extrêmement bien accompagnée aujourd'hui, je n'ai plus aucune raison d'aller chercher ailleurs, voir un spécialiste. En tout cas, si je vais voir un spécialiste, je vais d'abord consulter mon généraliste, dont c'est le métier, en fait, de coordonner, d'être finalement le point central d'un patient, quoi.
Antoine Spath, l'hypocondrie peut donc apparaître à certains moments précis de sa vie, après un épisode traumatique, après un événement douloureux, comme le décès d'un proche, la vue d'un proche gravement malade, ou quand on est passé près de la mort.
Oui, souvent, elle est déclenchée par la vue, effectivement, de quelqu'un de malade, de proche, de sa famille, souvent, où la personne, enfin l'hypocondriaque, se sent impuissant à résoudre la difficulté et l'angoisse du malade. Et donc, il y a une forme d'identification où il s'identifie à la personne malade. Et donc, il y a un espèce d'enchaînement qui fait que ça fait rebondir tous les traumas de l'enfance. Les traumas précoces de l'enfance, oui, c'est souvent accompagné comme ça par les personnes. Ouais. Ou les relations qui sont problématiques. Parce que souvent, dans les couples, quand il y a des situations de tension, quand il y a des vécus problématiques, voire violents, ça peut faire ressurgir une inquiétude du corps, une inquiétude de manière de l'angoisse, de toute façon. Et donc, oui, c'est souvent en lien avec les situations de son environnement affectif, souvent. Et c'est là que rebondit souvent l'hypochondrie. Mmh.
Oui. Agathe Caron.
Oui, moi j'ai plutôt le sentiment que depuis que je suis entourée de... Enfin, en tout cas que je suis dans un contexte affectif stable, c'est vrai que ça, c'est mieux quand même. Quand j'étais toute seule sur mon canapé roulé en boule, je... Parce que je dis
avant
aussi...
Avant la naissance de vos
avant
deux
la
fils...
Naissance de mes deux, avant la rencontre avec mon mari, avant la naissance de mes deux fils.
Mais c'est vrai que vous avez été mère relativement tardivement.
Oui, tard, oui, 40 et 42 ans. Donc, bon, je ne pensais pas qu'on pouvait être plus angoissé que je l'étais déjà. Mmh. Maintenant que j'ai des enfants, c'est pire. Mais en tout cas, je dis aussi dans le livre, et c'est vrai que l'hypochondrie, c'est un luxe, il ne faut pas oublier. C'est aussi quand même avoir le temps de se regarder soi, de regarder son propre nombril. Et alors, à la fois, avoir des enfants m'a détourné de moi, mais a créé une hypochondrie projetée sur eux. Mais quand même, je me sens quand même un peu plus stable, on va dire.
Et nous accueillons Lise. Bonjour Lise.
Bonjour.
D'où appelez-vous Lise ?
De Marseille.
Alors, quelle hypochondriaque êtes-vous Lise ?
Alors, moi je suis une hypochondriaque plutôt centrée sur toutes les sensations du corps qui peuvent être modifiées à un moment donné. Que ce soit des visuels, donc des rougeurs, des grosseurs, des choses comme ça, ou internes. C'est une hypochondrie que moi je lis à un trouble anxieux généralisé qui est diagnostiqué depuis très longtemps. Et quand j'étais enfant, cette anxiété se traduisait vraiment par une hypersensibilité très importante. Et je me suis toujours posé la question si cette hypochondrie pouvait être aussi associée à une hypersensibilité qu'on appelle l'interoception, enfin vraiment ce sens dont on parle moins que les autres mais qui existe. Donc les sensations internes, quoi, voilà. Et est-ce que ça peut être lié à ça ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ressentent plus ce qu'ils ont à l'intérieur et du coup, ça peut un peu plus les inquiéter ? Ou est-ce que c'est que l'hypochondrie entraîne une hypervigilance qui nous amène à être plus attentifs à ces sensations, en fait ? Voilà, c'est je me suis souvent posé la question.
C'est très intéressant ce que nous dit Lise, ce lien entre l'interoception et l'hypochondrie.
L'interoception, c'est un mécanisme qu'on n'a pas encore totalement élucidé, loin de là, mais qui montrerait que ce sont des personnes qui vont avoir une perception sensorielle de leur corps accrue par rapport à une moyenne. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de moyennes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi revenir à chaque individu. Et dans le cas de Lise, il y a une rencontre entre une, je dirais, un état peut-être alors neurologique, génétique, enfin une base, et puis la rencontre aussi des événements de vie, comme le disait mon confrère Spat. C'est-à-dire que c'est la rencontre de cette sensibilité et des choses qui se sont passées. Parce que tous les patients qui ont une antéroception augmentée ou une grande sensibilité à leur corps ne sont pas hypochondriaques. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique pour vous, Lise, qui va se passer.
Antoine Spat.
Oui, l'interoception, c'est-à-dire, c'est toujours lié au mécanisme un peu de l'anxiété, je suis désolé de revenir sur ça. L'anxiété, c'est une manière de grossir une perception. D'ailleurs, des personnes peuvent sentir leur cœur battre, sentir le sang circuler dans leurs veines ou leurs artères. Sentir, moi je prenais souvent l'exemple, par exemple, des personnes qui ont des acouphènes, ils entendent leurs oreilles, au lieu d'entendre ce qui vient de l'extérieur, et donc on grossit la perception. Et la faculté, si je puis dire, de l'anxiété, c'est de manière exponentielle de grossir les perceptions internes. Et c'est ce qui fait que ça déclenche l'anxiété, c'est une spirale anxieuse, si vous voulez. Plus on cherche à percevoir quelque chose, plus on en perçoit, et plus ça devient inquiétant. Et ben, c'est un peu le cas de Lise. Voilà.
Lise, comment vos proches vivent votre hypochondrie ?
Alors juste, c'est marrant, entre guillemets, parce que j'ai des acouphènes persistants depuis presque 10
ans. Moi aussi, Lise.
Voilà, donc on se comprend. Comment mes proches le vivent ? Alors, c'est un peu une double peine, parce que moi, en tout cas, j'ai besoin beaucoup d'en parler pour être rassurée. Je peux en parler à mes proches, je sais que c'est limité parce que j'ai pas envie non plus de les entraîner là-dedans et d'être cette personne qui ne va jamais bien. C'est un peu une forme de honte aussi parce que comme disait Agathe tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez, on est assez auto-centré. J'ai eu moi de l'hypochondrie pour mes enfants, mais bizarrement j'en ai plus pour moi que pour eux, comme si je leur faisais plus confiance. Comme si je... Enfin, voilà, c'est assez particulier. J'ai eu ce réflexe que j'ai beaucoup moins d'aller sur Internet. pour ne pas en parler à mes proches, mais bon, on sait que c'est pas forcément la bonne chose. Et j'ai la chance d'avoir un médecin traitant qui est une femme qui n'est pas dans le jugement non plus, à qui je peux me confier, qui va vraiment me rassurer, et un médecin psychiatre qui est une femme aussi, qui me donne comme des petits exercices à faire. C'est-à-dire que moi, je suis dans le contrôle constant de mes constantes. Donc, j'ai mon petit appareil pour la saturation. Je me pèse tous les matins. Si j'ai un écart de poids, c'est terrible parce que pourquoi je
Pendant que vous parlez, Agathe nous montre un appareil qui.
Ma montre mesure, connectée, voilà. Lise.
C'est ça. Voilà, alors, moi, j'ai pas la montre connectée, mais j'ai tout.
Mais ne l'achetez jamais.
Là, c'est ça. Et là, ma psychiatre m'a dit bon, déjà, l'appareil à saturation, vous l'utilisez plus. Et vous le faites pendant une semaine, vous ne l'utilisez pas pendant une semaine. Mmh. Et en fait, c'est un peu comme un exercice qui me donne un petit défi, et ça marche. Et puis, ça dépend énormément, comme disait Agathe aussi tout à l'heure, du contexte affectif, de la fatigue. Voilà.
Merci beaucoup, Lise, de nous avoir appelés. Vous, Agathe Le Caron, vous avez été assez souvent confrontée au regard sceptique de vos proches, de vos collègues, quand vous évoquiez vos maladies.
Oui,
votre peur des maladies.
En fait, j'ai l'impression que je le vis beaucoup toute seule, mais il y a des moments où il faut que ça sorte. Mais c'est quand même quelque chose. Effectivement, il y a un peu de honte, honte de s'écouter tout le temps, de se regarder tout le temps, honte d'être la personne, comme Lisa a très bien dit, qui va jamais bien. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte quand même que chaque fois qu'on me dit ça va, je dis ben non, je suis crevée. Et comme on fait, je me dis mais pourquoi je suis crevée, c'est pas normal. Donc en fait, c'est sans fin, mais j'essaye de les protéger un petit peu. Effectivement.
Alors Agathe Le Caron, une chose m'a frappée en lisant votre livre, vous documentez très bien votre angoisse d'être malade ou de tomber malade, mais vous ne parlez pas de l'éléphant dans la pièce, la mort, votre angoisse de la finitude. Même si vous vous demandez si les hypochondriaques ne sont pas des personnes dotées d'une lucidité aiguë quant à la tragédie de l'existence, vous parlez quasiment pas de la mort, de cette peur de la finitude.
C'est-à-dire qu'elle est induite, parce que c'est évidemment ça.
Oui, mais vous
ça,
n'en parlez pas.
Mais j'en parle pas, effectivement. Peut-être que je la contourne, peut-être que j'ai pas du tout envie de m'y confronter. Alors là, on parlait de la naissance des enfants, ça c'est vraiment venu appuyer sur cette peur abyssale qu'on a tous. Mais je suis très fascinée par les personnes qui arrivent à avoir une forme de déni par rapport à ça, que moi je n'ai absolument pas. Et aujourd'hui, l'enjeu, et je dis tout le temps au docteur Chaboch, c'est que je dois vivre longtemps pour mes enfants, parce que je les ai eus tard, je dois vivre longtemps. Effectivement, bon, on n'en sortira pas vivant, donc je l'ai bien intégré. Mais
Et comment vous affrontez cette angoisse de la mort ?
Alors, j'ai beaucoup de mal. Hein. J'essaye en fait de me dire qu'on est tous dans le même sac. En fait, la seule chose qui me rassure, c'est de me dire qu'on va tous le vivre. Mais effectivement, la peur d'être malade, elle est liée à ça essentiellement.
Alors, je ne voudrais pas vous effrayer, Agathe Le Caron.
Mais vous êtes malade. Mais de façon incurable.
Selon, j'ai lu pour préparer cette émission une étude publiée dans le JAMA Psychiatry. Vous avez vu mon anglais, JAMA Psychiatry, qui montre que les personnes souffrant d'hypochondrie ont un risque plus élevé que la moyenne de mourir, de cause naturelle ou non, en particulier de se suicider. Le stress chronique et son impact sur l'organisme pourraient en partie expliquer cette différence. D'où l'importance de traiter sérieusement son hypochondrie, docteur Adrien Chaboch.
Absolument, et nous avons parlé des différentes typologie de patients, entre guillemets, qui sont atteints d'hypochondrie. On a parlé de ceux qui consultent, et il y a aussi ceux qui ne consultent pas, qui vont être laissés sur le bord de la route, parce qu'ils ont peur du jugement, peur du regard, peur de ce que nos auditeurs nous ont dit, de malheureusement de certaines mauvaises rencontres médicales. Et à ces personnes-là, il faut s'adresser à eux. Il faut leur dire, mais vous pouvez être entendu, vous pouvez être accueilli, parce que ceux qui se suicident, c'est ceux qui ne sont pas accompagnés.
Sur ce stress chronique et son impact sur l'organisme, stress chronique lié à l'hypochondrie.
Et sur ce stress chronique, et bien, c'est malheureusement par les connaissances qu'on développe de plus en plus sur l'inflammation dite de bas grade. Donc, c'est pas l'inflammation.
Expliquez-nous cette inflammation de bas grade.
C'est une inflammation hyper importante pour comprendre le corps humain. C'est une clé pour le futur de la médecine. Enfin, vraiment, là, il faut vraiment se pencher dessus. C'est pas l'inflammation qu'on a quand on a la grippe, une bactérie, une angine, où là, on a des marqueurs d'inflammation qui sont au plafond. C'est une inflammation un peu pernicieuse, un peu de fond. Un petit peu, si je vous donne une image, comme un tapis d'épines de pin qui se dépose un peu partout dans nos organes et qui est prêt à faire flamber l'ensemble. Et ça va toucher quoi ? Ça va toucher des systèmes extrêmement importants, comme le système cardiaque et vasculaire. Ça peut abîmer nos artères, notre cerveau, nos reins, notre peau. Et il faut traiter ça. Et là, on a un enjeu absolument important d'avoir une vision de la médecine global et intégratif. C'est-à-dire qu'on doit soigner, en collaboration avec mon confrère Spat, on doit allier le corps et l'esprit. Et tant qu'on n'est pas dans cet abord de la médecine, on va négliger des choses. On va soit négliger le corps, soit les organes, soit la santé mentale. On doit avoir une approche qui peut être à la fois appuyée d'une introspection, comme l'a dit le témoignage d'Agathe Le Caron, c'est-à-dire la transgénéalogie. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Qu'est-ce qui s'est fait? Et aussi une conduction d'un changement de comportement, c'est-à-dire l'appui des thérapies cognitivo-comportementales,
on va y revenir,
qui sont la référence, mais pas que, et avoir aussi une approche du corps médical.
Agathe Caron.
Non, je ris parce qu'il me regarde, parce qu'il sait que j'ai une inflammation de bas grade, donc il le sait. Mais là, j'ai quand même une question, c'est la CRP ultra-sensible, c'est ça, docteur ?
Consultation en direct.
Non, mais pourquoi est-ce que les médecins ne cherchent pas ce marqueur plus souvent ?
Alors, il faut mettre en perspective. Il faut quand même mettre en perspective à l'international. Et à l'international, il y a des propositions différentes et des postures différentes que celle qui est communément admise en France, où on est dans une logique de réduction des coûts, ça s'entend, vous l'avez tout compris.
À quoi sert cette mesure ?
La CRP ultra sensible, elle va avoir une précision beaucoup plus importante et une sensibilité beaucoup plus importante. Et donc, à l'échelle de quelques degrés, ça nous montre l'intensité de cette inflammation de bas grade.
Et ça, Agathe Le Caron, c'est bien une réflexion d'hypochondriaque.
Ouais.
Et nous verrons dans quelques instants comment soigner son hypochondrie. Ce sera juste après avoir écouté Yael Naïm, la fille pas cool, 10h46 sur Inter.
Je suis pas la fille qui ose, je suis pas la fille qui pose, pas la fille qui fait rire, pas de grandes choses à dire, pas la fille à la mode, jamais compris les codes, pas vraiment de conviction, quelques bêtes addictions, pas comme ça, un peu folle, pas du tout une idole, pas une briseuse de cœur, j'avais trop souvent peur, pas une grande sportive, pas vraiment combative, voilà tout ce que je ne suis pas, alors moi je suis quoi? Je suis la fille peu cool.
D'écouter Yael Naïm qui interprétait la fille pas cool, l'inverse de notre invité Agathe Caron.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Mal vous fasse, comment mieux vivre avec son hypochondrie, avec Agathe Le Caron qui publie Patiente Zéro, où elle raconte sa vie d'hypochondriaque, avec le docteur Adrien Chaboch et avec le psychologue clinicien Antoine Spatt qui a publié il y a quelques années Tu crois que c'est grave. Et nous accueillons Tara. Bonjour Tara.
Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez.
On vous entend très bien, Tara, d'où appelez-vous?
J'appelle de Normandie, moi je suis, j'ai été adoptée en fait à 4 ans, et du coup on ne donnait pas une espérance de vie exponentielle pour les enfants d'Éthiopie, et du coup j'ai fait une batterie d'examen et tout était impeccable, donc c'était un bonheur, et en fait cette insouciance elle s'est accompagnée quand j'avais 14 ans d'un trauma par un jeune garçon qui est mort sur un terrain de foot lors d'un match subitement, et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, il est décédé, et on s'est dit mais comment c'est possible, comment la mort peut frapper soudainement comme ça, et quelques temps après j'ai perdu des membres de ma famille très proches, j'ai été confrontée à ça, et maintenant que j'ai 24 ans, c'est d'une autre manière que ces crises d'hypochondrie se déclarent. C'est le fait que maintenant on a les réseaux sociaux et le téléphone. Et le téléphone, c'est un nid de symptômes, de personnes qui donnent des témoignages plus
spectaculaires,
on va dire, ils ne cachent pas exactement. Et du coup, en fait, on se dit, mais ils sont jeunes. Maintenant, c'est des jeunes qui peuvent être touchés d'un cancer du côlon, d'un cancer de n'importe quoi, hyper jeune, et avec les études, les statistiques. Et en fait, on se dit, mais comment on va faire? Et moi, je me suis retranchée maintenant que je vis toute seule, loin de mes parents. Et tout le temps, en fait, c'est une angoisse permanente de se dire, on se couche. Peut-être que mon cœur, j'ai des palpitations, comme disait le spécialiste, le docteur. C'est que, en fait, peut-être que ces symptômes, moi, ça se forme par le côté cardiaque. Je suis militaire, donc on fait beaucoup de sport. Et je me dis, mon cœur, il palpite tout le temps. Ça s'emballe. Des fois, je m'arrête. Et je me dis, mon Dieu, j'arrive plus à respirer. Maintenant, c'est les poumons. Après, c'est le cerveau, parce que j'ai des mal de tête. Et en fait, c'est quand on a des phases où on se sent bien, c'est pas normal. Quand je vais me coucher, des fois, je me sens bien. Et je me dis, non, il faut que j'angoisse, parce que ma vie, elle est limite. Je suis omnibulée par cette maladie et elle fait partie de moi.
Et Tara, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que Internet a vraiment changé la vie des hypochondriaques. Oui. On parle même de cyberchondrie. C'est vrai que, docteur Chaboch, la recherche des symptômes sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ça peut aggraver son hypochondrie.
Totalement.
Comme c'est le cas avec Tara.
Totalement. C'est malheureusement quelque chose qui est venu avec la diffusion de grandes plateformes qui permettent de donner des données de santé, des questions de santé. Alors, il y a des aspects très très positifs, évidemment, mais c'est une matière brute et c'est une matière qui peut être envahissante dans la tête des personnes, dont il faut, de cette matière brute, retravailler, en rediscuter, affiner, comprendre. Et là, on entend très bien dans l'histoire de Tara, déjà une question d'histoire, l'adoption, c'est une question, et puis après, ce décès d'une mort subite de quelqu'un sur un terrain qui vient faire effraction, qui vient traumatisé et qui vient poser le mystère de mais qu'est-ce qui s'est passé, et mettre fin à un mythe, celui qu'on a tous un petit peu, le mythe de l'invulnérabilité.
Agathe Caron.
Oui, alors moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup Internet et je pense que ça peut être positif si on a des connaissances, c'est-à-dire que si on arrive à faire le tri. Et quand même, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ChatGPT et Gemini, c'est quand même plus intéressant que Google, où on a, là, c'est à nous de cliquer, en fait. Et je trouve que c'est quand même, malgré tout, pas mal fait, Gemini étant un peu plus intelligent que ChatGPT, pour avoir testé les deux.
Mais qui fait des erreurs. Il fait des erreurs. Il faut faire très attention à ça. Et l'interlocuteur de référence, c'est le médecin.
Exactement. Merci beaucoup, Tara, d'avoir témoigné ce matin. Comment lutter contre son hypochondrie? Quelles sont les thérapies les plus recommandables? Est-ce que les TCC, Antoine Spatt, les thérapies comportementales et cognitives, sont les plus indiquées?
Oui, ce sont de très bonnes thérapies.
Mais est-ce que ça soigne, franchement?
J'ai plutôt tendance à favoriser tout ce qui relève d'une approche un peu corporelle.
L'hypnose, par exemple?
Entre autres, l'hypnose, oui, évidemment. Là où on fait intervenir quand même le corps. Parce que l'hypochondriaque, il a eu des carences par rapport à la représentation qu'il a de son corps, par rapport à la valorisation qu'il a eu de son corps, et donc de restaurer à travers une approche psychothérapeutique un peu corporelle, me semble être une bonne chose.
C'est vrai que les TCC sont utiles si l'angoisse devient absolument débordante, là... Ça peut être intéressant.
Oui, les TCC sont tout à fait utiles, hein, y a pas de souci. C'est une manière de redonner un autre discours sur sa, sur ses symptômes, sur sa maladie, de questionner, parce qu'il y a une relation comme ça qui s'instaure thérapeutique avec le praticien, où on vient questionner la validité de la représentation mentale de la personne. Et donc, ça, on peut effectivement transformer le
mais
vécu de la personne.
Mais ça voudrait dire que l'hypocondrie est liée à l'estime de soi aussi ?
Ah oui.
Ou manque d'estime de soi ?
À l'image qu'on a de soi. La manière dont on a été touché. Moi, j'aime bien faire référence à Winnicott. Hein, je sais pas,
Donald Winnicott, célèbre psychanalyste et pédiatre.
Oui, voilà. Qui apportait une importance capitale à ce qu'il appelle le handling, le holding et le presenting.
Le maternage, en fait.
Le maternage. Et quand il y a eu des... Oh, bon, je ne veux pas culpabiliser les mères.
Non, moi j'ai été maternée, je peux le dire.
Mais bon, quand il y a eu des carences souvent dans ces prises en charge de l'enfant, on retrouve des situations d'hypocondrie ou d'angoisse.
Docteur Chaboch, je rappelle que vous êtes également hypnothérapeute. Ah bon ? De quelle façon l'hypnose médicale peut-elle aider un hypocondriaque ?
C'est très intéressant l'hypnose dans l'accompagnement des patients qui souffrent d'hypocondrie parce qu'on va faire le lien, on va relier le corps et l'esprit. Et dans cette expérience, parce que l'hypnose c'est une expérience sensorielle avant tout, qu'on va aussi pouvoir élaborer un petit peu avec la parole, mais on ne va pas tout analyser, on ne va pas tout décortiquer. Ben justement, ça fait un petit peu taire ce décortiquage, cette auto-autopsie morbide du corps. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? On le sent. Et on le sent dans un état de conscience, la transe hypnotique, qui permet de ramener un équilibre, puisqu'il y a une régulation du système nerveux dans cet état de transe. Et donc le patient sent de manière très primitive, en fait, que son corps va bien, que ça fonctionne, que à nouveau le corps et l'esprit font un. Et c'est très aidant. Dans une approche intégrative, effectivement, les TCC, oui, c'est un outil. L'hypnose, oui, c'est un outil. Dans un panel de possibilités pour les patients.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire au terme de cette émission aux hypocondriaques dont vous faites partie ? Vous allez quand même un petit peu mieux, on le comprend à la fin de votre livre.
Moi, je pense en tout cas qu'il ne faut pas ignorer son hypocondrie, il faut s'en saisir et il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc, moi, j'ai la sensation que je ne serai jamais guérie de cette hypocondrie. J'aime trop la vie, j'aime trop mes enfants. Mais en revanche, peut-être essayer de la mettre à distance, de voir ce qu'elle veut nous dire et puis de se réparer le plus possible. En fait, c'est bien d'essayer de... Enfin, voilà, on n'est pas longtemps sur cette terre, autant grâce à ça, essayer de mieux comprendre le monde qui nous entoure et qui on est et réparer. Voilà.
Merci beaucoup docteur Adrien Chaboch, merci Antoine Spath. Tu crois que c'est grave, c'est publié chez Larousse. Merci beaucoup Agathe Le Caron.
Merci
Patiente
à vous, Ali.
Zéro, c'est publié chez Robert Laffont et c'est bien écrit.
Ah, merci. C'est venant de vous. J'avais peur. Hein.
Une émission à podcaster, à partager à tous les hypocondriaques que vous connaissez sur l'appli Radio France. Demain, on s'intéresse à la solitude subie et à l'isolement, comment créer du lien social en compagnie notamment du docteur David Gourion. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France.